de Donald.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Nous sommes le 10 avril 2025.
Vous êtes bien sur 89.4 FM et c'est l'heure de...
Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Nous sommes la classe de CM2B à l'école Maurice Thorez B à Ivry.
Je m'appelle Macan, je suis avec Adriel.
Salut.
C'est Aïdou.
C'est moi.
Aïcha.
Bienvenue.
Savez-vous ce qu'est un lancement radio ?
Un lancement est une courte phrase qui nous permet de présenter le sujet qui va être lancé.
Aujourd'hui, à l'occasion du printemps des poètes, nous allons créer pour vous des lancements poétiques et amusants.
Voici le sommaire.
À 14h05, les CE1A et B de l'école Joliot-Curie A nous proposent des poèmes volcaniques pour le printemps des poètes.
Intriguant.
Cela veut dire de beaux poèmes qui sont endormis,
mais parfois se réveillent pour tout fracasser.
À 14h13, les CE1A de l'école Rosaline Franklin décrivent une nouvelle affiche de presse sur le handicap.
N'oubliez pas d'ouvrir la fiche correspondante sur le site de Radio Cartable. À 14h20, nous écouterons 6 élèves du collège Henri Vallon de la 5e à la 3e qui ont pu aller à la rencontre des professionnels de la galerie Fernand Léger.
Ce centre d'art vient d'inaugurer sa nouvelle exposition, Socle peu commun, par l'artiste Jacob Cotel.
De nombreux métiers se cachent derrière ces 100 expositions.
À 14h37, l'écrivain Clark Bérez explique au CM2 de l'école Maurice Thorez B comment on peut apprendre à connaître un ou une artiste pour parler de son œuvre. Elle a écrit le roman Rien n'est noir à partir de ses recherches sur Frida Kahlo.
Les élèves ont découvert certaines peintures de l'exposition Le genre idéal au Macval.
La classe travaillera sur la biographie des artistes pour écrire des cartel.
Pour bien démarrer cette émission, écoutons des poèmes en éruption.
Je m'appelle Maxence.
Dayton.
Je m'appelle Lucas.
Je m'appelle Lewis.
Je m'appelle Layana.
Je m'appelle Marie.
Je m'appelle Maëlle.
Je m'appelle Anas.
Je m'appelle Eline.
Je m'appelle Mounia.
La solitude. Il était une fois un volcan tout seul, mais un jour il se défoule, il explose, il coule. Le volcan écoute-t-il ?
Le volcan brille comme un sapin de Noël. On a envie de le regarder. Il est endormi. Il n'y a plus de fumée. Il est calme et géant. Et c'est qu'il va se réveiller, exploser à nouveau ?
Je vois tant que ça marche pas. Je vois tant que ça explose.
Le volcan ouvre les yeux, le magma y entrera. Le volcan ferme les yeux, le magma y restera. Voilà pourquoi le soir, quand le volcan se réveille, j'aperçois dans le noir deux morceaux de magma.
Un volcan, c'est brillant, troublant. Un volcan, c'est impressionnant. Et c'est un tremblement. Un volcan, c'est bruyant, différent. Un volcan, c'est attirant.
Chaud patate de vent. Le volcan va exploser et le magma va faire en ébullition. Wesh, il y a des boues rouges. Je cours, je me fracasse et je me bouge. Je vois un burger frites. Une personne dit au volcan de fermer son manteau. Pas le temps, j'arrive à la maison.
Le panache du volcan explose comme de la laine du mouton. Il est tout blanc.
Il est comme un gros bonbon qui saute. C'est un nuage plein de neige.
Un volcan, c'est chaud bouillant. Un volcan, c'est brûlant. Un volcan, c'est diamant. Un volcan, c'est explosant. Un volcan, c'est fracassant. Un volcan, c'est réveillant. Comme un chou-fleur, comme un nuage, comme de la neige, comme un brocoli, comme du sable.
La lave glisse comme un toboggan enflammé. La lave est brûlante. Elle roule autour du volcan. Elle est collante et visqueuse.
La lave, c'est comme une fleur qui s'ouvre. On a envie de l'accueillir. Elle est colorée. C'est une explosion de tulipes rouges et de jonquilles jaunes. C'est un feu d'artifice. La lave est surprenante.
Route de bateau, rage qui coule à la crème chantilly. Glou-glou, tremblement de terre, éternuement, rivière effrayante, explosion du coquillage.
Le magma est attirant comme un diamant. On a envie de le montrer. Le magma est noir, il est ardent, il est stupéfiant, brillant et craquant.
Le volcan brûle comme une montagne enflammée. Le volcan est énervé. Il est en colère. Il est accablé parce que les villageois l'ont encore écrasé.
On va aller devant le volcan. On va aller le gronder. Chaud patate devant le volcan va exploser et le magma va faire en ébullition. Les bulles de gaz sont tellement chaudes que le volcan est très chaud. Le volcan est en colère. Le volcan a du magma. Le volcan crache de la lave.
L'escargot, arrête de fumer. Bon, d'accord, tu ne veux pas m'écouter. C'est pas grave, voilà. C'est bien. Bah, tu l'as cherché. Je parle trop, je vais te pousser. C'est trop drôle.
Le cratère explose, les gens sont morts, la chambre déborde, de la cheminée coule la vapeur.
Boum, il se retape sur la tête. Boum, boum.
Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter en grande première mondiale le
poème du poète. C'est pour dire tout cela et mille et mille et mille autres choses. Pas besoin de comprendre.
Bonjour, je m'appelle Eyana. Je vais vous réciter le poème au carnaval. Au carnaval. Au carnaval de Rio, les musiciens jouent du banjo. On danse la salsa et la rumba, le tango et le cha-cha-cha. Au carnaval de Venise, tout le monde se déguise. On rencontre des princes et des marquises, des lionnes et des souris grises. Au carnaval de Nice, c'est un véritable délice. On se lance des confettis, des serpentins et des grains de riz.
Bonjour, je m'appelle Ismaïl et je vais vous raconter le poème de Monsieur Printemps. Monsieur Printemps, le mois de mars a un secret que je vais vous raconter. Il nous prépare doucement l'arrivée de Monsieur Printemps. Monsieur Hiver n'est plus le roi. Dame Nature reprend ses droits. Les fleurs apparaissent dans les champs pour saluer Monsieur Printemps. Le soleil réchauffe de ses rayons les ailes fragiles des papillons. bateau reprend vie lentement grâce au bienveillant Monsieur Printemps. Clarine Percy.
Maintenant dans X-Sagesse, c'est parti pour décrypter une affiche de presse.
À quoi ça sert de faire du sport ?
J'aime beaucoup faire du sport.
C'est vrai que les garçons sont égaux aux filles ?
Débat, c'est intéressant ou pas ?
Selma,
Mariama,
Raphaël,
Samuel,
Zeneba,
Eyana,
Aboubakar,
Inaya.
Nous sommes les élèves de la classe de CE1A de l'école Rosalind Franklin à Ivry-sur-Seine.
Ce mois-ci, nous nous sommes posé la question.
Qu'est-ce que c'est qu'avoir un handicap ?
Pour y répondre, nous avons étudié l'affiche d'un jour une actu dont le titre est le handicap.
On a tout de suite remarqué une dame et un homme qui courent.
Peut-être qu'ils participent aux Jeux Olympiques.
Ils n'ont pas de jambes, mais ils ont des prothèses pour pouvoir courir.
C'est ce qu'on appelle un handicap moteur.
Il y a ainsi un guide pour les personnes aveugles.
Ici, c'est un handicap visuel.
Il y a deux symboles, dont un qui représente la surdité.
Les mains représentent la langue des signes.
Ça permet de pouvoir discuter avec une personne sourde.
C'est un handicap auditif.
Le deuxième symbole représente le handicap mental.
Pour l'illustrer, il y a un garçon, on voit son cerveau avec un éclair.
Il y a un panneau avec une personne en chaise roulante.
C'est une place réservée aux personnes qui ont un handicap.
Ça permet aux personnes handicapées d'avoir une place plus grande
et plus proche du lieu où ils se rendent.
Maintenant, nous sommes capables de dire qu'il y a plusieurs types de handicaps.
Nous avons vu les handicaps moteurs, visuels, auditifs et mentaux.
Cette affiche nous montre avec les deux personnes qui courent que même si on a un handicap, on peut faire de grandes choses.
Elle nous rappelle aussi l'importance de respecter la place réservée aux personnes handicapées.
Thank you.
Après cette session pleine d'informations, direction l'exposition de la galerie Fernand Léger et tous ses métiers.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour.
Moi, je suis Mohamed Sabri Mafoud et je suis en classe de 3e.
Moi, je m'appelle Anaïs Bondo et je suis en classe de 4e.
Moi, je m'appelle Juliette Fissek, je suis en classe de 3e.
Lucie Dubil et je suis en classe de 4e.
Sybille Legal da Silva et je suis en classe de 4e.
Shaina Belalia et je suis en classe de 5e.
Naïd Babéja d'Aziz, 5e 1.
Katharina Machado Antunes, 5e.
Et aujourd'hui, nous sommes à la galerie Fernand Léger à Ivry-sur-Seine pour la prochaine exposition de Jacob Gotel, nommée « Socle peu commun », et elle est en train de se mettre en place. Nous allons donc rencontrer des professionnels qui font partie de l'envers du décor, mais sans qui l'exposition ne pourrait pas avoir lieu.
Eddy Saïdi, directeur de la galerie Fernand Léger.
Bonjour, qu'est-ce que c'est votre métier précisément ?
Bonjour, merci pour votre question. Mon métier, je ne sais pas si c'est un métier, diriger un lieu d'art, diriger une équipe, inviter des artistes et faire une programmation suivant les axes définis par la ville.
Vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu une formation un peu particulière. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu ?
J'ai une formation artistique à l'école d'art et puis une formation aussi à l'université où j'ai tenu ma thèse. Donc voilà, donc tout ça, ça ne donne pas un métier, ça donne une configuration et surtout de pouvoir travailler après dans des lieux.
Comment vous en êtes arrivé à faire l'organisation de cette galerie ?
Alors, c'est une galerie municipale, donc je n'ai pas fait tout seul. Donc moi, je suis arrivé sur ce qu'on appelle des missions de programmation. Mais la programmation, ça se construit sur la durée. Ça se construit aussi avec des gens qu'on a sur place ou des gens qu'on recrute au fur et à mesure des évolutions des projets municipaux.
Est-ce que vous pourrez nous dire pourquoi est-ce que cette galerie a été nommée Fernand Léger ?
Alors Fernand Léger n'a jamais habité à Ivry, n'a jamais travaillé, il n'a pas vécu, mais on a hérité d'une série d'œuvres dans la ville qu'on a retrouvées. Et à partir de là, on a nommé Fernand Léger la galerie en 1983.
Est-ce que vous pourriez présenter un peu l'exposition qui va venir dans les semaines prochaines ?
Alors l'expo qui se prépare, c'est celle de Jacob Gotel. Jacob Gotel, c'est un artiste lauréat, enfin ex aequo de la bourse de recherche suite à la Triennale Art Public. C'est une exposition tous les 3 ans. On sélectionne un artiste, cette fois-ci on a sélectionné 2. Donc il y aura Jacob au mois d'avril et il y aura Isabelle Desron au mois de septembre. Jacob, il travaille sur l'idée du socle sur la ville. Et à travers le socle, il y a aussi l'idée de la promenade dans l'espace public.
Est-ce que vous pouvez nous citer 3 qualités dans votre métier ?
Enfin, il faut déjà être du métier artistique, ça c'est évident. Ce n'est pas une qualité, mais c'est un profil hein, plutôt. Il faut bien sûr être à la pointe de ce qui se passe aussi en art contemporain. Et puis un petit peu de relationnel, voire beaucoup.
Reportage dans mon cartable.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
Monsieur Jacob Gotel.
Pouvez-vous nous dire concrètement en quoi consiste votre métier ?
Alors, je suis artiste plasticien. Et je suis invité à la galerie Fernand Léger pour une exposition, ou plutôt pour la présentation d'un projet de recherche avec la thématique des socles, parce qu'il y a différents socles dans la ville d'Ivry sur lesquels il y avait des sculptures. Et un de ces socles, il est devenu vide parce qu'on a démonté la sculpture en 1942 pour la fondre et pour faire des munitions. Et du coup, j'ai essayé de retrouver l'histoire de cette sculpture et qu'est-ce qu'il y avait sur le socle. Sur le socle est écrit « Hommage au travail ». Et de là, il y a tout un projet de recherche un peu historique, mais aussi sur l'actualité à Ivry et comment les quartiers se transforment. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces foutus socles.
Et en particulier, que faites-vous à la galerie Fernand Léger ?
Il y a les techniciens qui ont monté toute ce qu'on appelle la scénographie de l'exposition. Et on est en train de travailler sur des tirages photos. Après, il y aura des objets aussi. Il y aura une grande installation avec de la vidéo. Voilà, une salle plutôt dédiée à la recherche, aux différentes recherches que j'ai faites. Et l'autre salle plutôt dédiée à une sorte d'univers immersif.
Pouvez-vous nous dire 3 qualités que vous jugez nécessaires et importantes dans votre métier d'artiste?
Alors, le premier, c'est l'imagination. Donc, être capable de s'imaginer des choses. Ne pas s'arrêter à la réalité comme elle est, mais se dire, la réalité, elle peut être différente, elle peut être transformée. Ou on peut mélanger un contexte avec un autre, une réalité avec une autre. On peut se faire rencontrer des réalités différentes. Je crois que ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est la patience, parce qu'il faut travailler beaucoup, être très patient, essayer des choses, parce que la première fois, ça ne marche pas, c'est presque sûr. Donc, il faut être persévérant et patient. La troisième chose, c'est la communication. Donc, avoir envie de communiquer, avoir envie de parler avec les autres. Pour moi, l'art, c'est de la communication. Je m'adresse aux autres, je ne fais pas l'art pour moi-même, je le fais pour vous, pour le public. Et après, ça aide aussi si on peut expliquer son travail comme je suis en train de le faire avec vous.
Vous faites de l'art pour faire ressortir vos sentiments ou c'est juste comme ça?
C'est jamais juste comme ça, c'est toujours déclenché par quelque chose. Au fait, la notion d'art public m'intéresse beaucoup. Donc je parle de mes sensations ou de ma perception, de ce que je vois, mais je veux que ce que je raconte dans mon art soit compréhensible. Donc ce qui m'intéresse énormément dans mon travail, c'est d'avoir aussi des retours, une opinion, d'avoir un écho de la part du public.
Souvent on dit que les artistes dans leurs œuvres ont un message à passer, est-ce que vous en avez un et lequel, si oui?
Alors, c'est pas un message, je crois chaque fois c'est des messages. En général, la chose qui m'intéresse dans mon travail, c'est l'image, donc la représentation, et comment on passe de la réalité à l'image, ou de l'image à la réalité. Comment on passe de l'autre côté? Donc, par exemple, une des choses ici, dans l'exposition, on peut soi-même devenir une sculpture et dire qu'est-ce que moi, j'aurais mis sur le socle, avec hommage au travail écrit dessus, comment moi, je représenterais cette thématique.
Est-ce que vous avez des types d'endroits où vous aimez exposer vos recherches?
Je peux répondre par la négative. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille pour une galerie. Ce qui m'intéresse, c'est plus d'autres types de lieux où on peut montrer son travail, qui sont plus faciles d'accès. Donc, j'ai pas mal exposé dans des centres d'art ou des musées, très très peu dans des galeries finalement. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est l'espace public, de montrer du travail dans l'espace public, donc dans un lieu qui n'est pas dédié à l'art. Voilà. Il y a des passants qui tombent sur une œuvre et qui se posent des questions.
Est-ce que vous rencontrez parfois des difficultés dans votre métier?
Tout le temps. Tout le temps. Souvent, quand il y a des difficultés, il y a quelque chose qui ne marche pas pour une raison technique ou pour une raison par rapport à l'idée, le concept qu'on avait en tête. Et souvent, ça aide de se dire, ça marche pas comme ça, il faut que je fasse autrement. Donc, tu t'arrêtes, t'arrêtes de travailler, tu te retournes et tu regardes exactement dans le sens opposé. Et tu te dis, comment je peux faire de manière complètement différente? Et là, on trouve des solutions.
Alors, du coup, merci de nous avoir accordé votre temps et bonne journée. Merci.
Et bienvenue à l'exposition.
Merci. À bientôt. À bientôt.
Reportage dans mon cartable. mon cartable.
Bonjour, monsieur Jean-Michel Albert. On nous a dit que vous étiez chef de projet. Non, c'est pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que vous pourriez nous préciser la nature de votre métier ?
Bonjour, oui, je m'appelle Jean-Michel Albert, je suis chef de projet artistique pour la Galerie Fernand Léger et la mairie d'Ivry-sur-Seine. En quoi consiste mon métier ? Concrètement, c'est de concevoir des expositions avec les artistes qui sont invités. Donc ça a beaucoup de facettes. La première, c'est d'écouter l'artiste dans ses besoins. Et de lui proposer un ensemble de solutions pour que ce soit viable en termes de fabrication, en termes financiers et en termes de réalisation par la suite pour son exposition.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?
À l'origine, j'ai fait des études d'art, du coup, j'ai une licence d'art plastique. Après, j'ai intégré l'École nationale supérieure de la photographie et ensuite, j'ai intégré le Fresnoy, l'Institut national des arts contemporains à Tourcoing. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à assister à un certain nombre d'artistes et je me suis dit que ce serait plutôt bien de proposer mes compétences à des artistes qui arrivent avec des idées, qui ne savent pas forcément les réaliser. Et aujourd'hui, ça fait presque 13 ans que je suis à la mairie d'Ivry-sur-Seine. Voilà, et j'ai eu la chance d'être recruté sur ce poste qui est plutôt rare dans les services publics. Voilà.
Sans être indiscret, est-ce que vous pourriez nous donner un peu une tranche de votre salaire moyen si certains élèves, par exemple, veulent essayer votre métier ?
Mon métier ou ma fonction n'existe pas forcément dans le corps de la fonction publique. Donc moi, j'ai un grade d'attaché territorial. Voilà. Donc c'est fixé sur la grille indiciaire des attachés territoriaux, qui sont un salaire fixe d'environ, je crois que c'est 1800 euros net. Et après, à ça, il y a des primes. Pour ma part, elle est de 500 ou 600 euros. Voilà.
Et est-ce que vous pouvez nous citer trois qualités qui sont nécessaires dans votre métier ?
Alors, je pense que le point primordial, je dirais que c'est la curiosité. Parce que comme on demande une polyvalence qui est vraiment très accru, il faut à la fois avoir une vision d'un ensemble de techniques de production, parce que du coup je fais à la fois l'animation 3D, du prototypage, du plan pour faire les plans de scénographie, des plans de construction pour les donner après au monteur régisseur de l'exposition. Et après il faut savoir aussi bien écouter les gens, parce que faut pas non plus leur proposer des choses qui ne leur convient pas. Voilà.
Reportage dans mon cartable.
Bonjour monsieur Edouard Sautet, pouvez-vous nous dire concrètement en quoi consiste votre métier et en particulier ce que vous faites à la Galerie Fernand Léger?
Bonjour, à la Galerie Fernand Léger, je suis régisseur d'exposition, donc je suis en charge du montage des expositions qui ont lieu 4 fois par an.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier?
À l'origine, je suis artiste plasticien et donc c'est un moyen de gagner ma vie annexe, mais qui devient une activité principale par moment, et par moment c'est plus mon activité d'artiste qui prend le dessus.
Avez-vous fait une formation en particulier pour votre métier ?
Oui, j'ai une double formation. Je suis à la fois technicien pour l'industrie, avec un BTS Bac plus 2. Et puis après, j'ai fait les Beaux-Arts, qui m'ont donné un complément pour me spécialiser dans les métiers artistiques.
Pouvez-vous citer trois qualités que vous jugez nécessaires pour faire votre métier ?
La polyvalence, pour travailler différents matériaux, mettre en place des œuvres très diverses, qui peuvent être des œuvres sonores, des constructions à faire pour installer des sculptures. Donc la polyvalence, je dirais que c'est un des critères. La réactivité, pour pouvoir imaginer, trouver des solutions techniques à chaque problème qui se pose. Et puis l'écoute, voilà, pour pouvoir répondre au plus juste à la demande que formule l'artiste ou le chargé de production.
Donc, en gros, vous aidez l'artiste à mettre en place son exposition, et c'est ça ?
Alors, je dirais que c'est plus qu'aider, parce qu'en fait, l'artiste, parfois, il a des compétences techniques qui lui permettraient par lui-même de réaliser ce qu'il propose dans son exposition. Mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont des souhaits qui dépassent leurs compétences techniques. Et donc, on devient des partenaires plus que des réalisateurs de ce qu'il a imaginé. Donc il faut dialoguer avec lui, et c'est là que ça fonctionne le mieux et que les projets sont les plus réussis. C'est quand l'artiste travaille avec nous en complicité.
Bien sûr, sans être indiscret, pourriez-vous nous donner votre salaire moyen ?
En moyenne, on va dire 25 euros brut de l'heure sur la moyenne des différents sites dans lesquels je travaille.
Mais
c'est un travail, je répète, donc intermittent, c'est-à-dire qu'il s'arrête au bout de quelques semaines et qu'il faut toujours penser à rebondir pour en trouver un autre. Il n'y a pas de pérennité. Je n'ai jamais signé de CDI. Donc je viens d'avoir 60 ans et je suis toujours en quête de travail. Donc c'est une situation assez instable, voilà, qu'il est parfois difficile de supporter, mais globalement c'est aussi la condition pour que le travail soit sans cesse nouveau, que je travaille dans différents lieux, avec différentes personnes, avec des compagnies de théâtre aussi parfois pour des décors que je fabrique. Donc c'est un peu ça la condition, il faut toujours être au top.
Bonjour Monsieur Gaël. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement en quoi consiste votre métier et en particulier ce que vous faites à la galerie Fernand Léger ?
Je suis agent administratif donc à la galerie Fernand Léger. Je vous explique rapidement comment ça fonctionne. C'est qu'on dépend d'un service qui lui-même dépend d'une direction, la direction culturelle. Donc nous, dans cette direction, le service art plastique, on propose plusieurs choses, notamment des expositions au travers de la galerie Fernand Léger, mais aussi des cours à des élèves dans des ateliers qui sont répartis dans la ville. Mon métier, du coup, en tant qu'agent administratif, c'est de contacter des partenaires qui sont au sein même de la mairie, je pense notamment à la régie, lorsqu'il y a des problèmes techniques, de pouvoir les résoudre. Donc, toute cette démarche est faite par moi ou ma collègue.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?
Au départ, lorsque je travaille pour la première fois pour la mairie d'Ivry-sur-Seine, je travaille en tant qu'animateur. Et j'ai travaillé donc pendant une vingtaine d'années dans ce cadre-là, notamment l'école Maurice Thorez qui accueille Radio Cartable. Et suite à des problèmes de santé, j'ai fait l'objet d'un reclassement médical qui m'a permis de changer de filière, donc de passer du socio-culturel, ce que je faisais en tant qu'animateur, au culturel, dans le cadre d'une nouvelle fonction, puisque je n'étais plus animateur, mais agent administratif.
Et donc, ça fait combien de temps que vous travaillez à la galerie ?
Alors, je travaille à la galerie depuis 2016. Tu fais le calcul, ça fait à peu près 9 ans.
Est-ce que vous pouvez nous citer 3 qualités qui sont... qu'on a besoin quand on fait votre métier ?
Je pense qu'il faut être organisé et structuré. Il faut avoir de la rigueur et être à l'écoute.
Bah justement, est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières dans votre métier ?
Justement. Pour moi, la principale difficulté, mais ça dépend aussi de mon caractère, c'est peut-être de ne pas tourner en rond. Donc ici, j'ai cette chance, c'est que je peux passer du stylo au pinceau. Voilà, parce que de temps en temps, nous on travaille sur des périodes différentes, avec par exemple les temps d'exposition, je ne vais pas avoir forcément les mêmes fonctions. Pour un vernissage, je vais être plutôt à l'accueil des gens qui vont rentrer. Je vais peut-être être aussi sur la surveillance des salles, pour que tout se passe bien, pour que les œuvres soient préservées.
Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre métier ?
C'est une nourriture. Voilà, venir ici pour moi c'est une nourriture parce que je rencontre des choses nouvelles, je m'ouvre à un univers qui n'était pas le mien il y a une dizaine d'années, et je me nourris aussi de ce que mes collègues apportent, mais aussi des échanges qu'on peut avoir avec les artistes, et puis j'ai une grande chance, c'est que je suis là tout le temps pour voir des œuvres.
Sans être indiscret, pouvez-vous nous donner une fourchette de votre salaire ?
Alors, ça ne va pas être une fourchette parce que dans la fonction publique, ça, pour moi, c'est très précis. Parce que déjà, d'une part, je suis fonctionnaire, donc titulaire.
et que tout ça est régi par des lois. Donc je suis agent adjoint principal première classe, donc je suis au bout de ce que je peux faire dans mon dans ma catégorie. C'est ce qui m'amène à, au bout d'une un peu moins de 30 ans de carrière, à 2300 euros et quelques bananes.
Bonjour Madame Ardaillon. Pouvez-vous nous dire concrètement en quoi consiste votre métier et en particulier à la galerie Fernand Léger ?
Alors, je suis chargée de médiation, de projet de médiation et d'inclusion des publics. Je m'occupe de tout ce qui va être communication interne. Ça veut dire participer aux réunions, gérer de nouveaux partenariats. Ça va être aussi de créer des projets de médiation. Ça veut dire que, en particulier à la Galerie Fernand Léger, comme certains collègues me l'ont expliqué un peu plus tôt, on organise 3 expositions par an. Et autour de ces expositions, il y a tout un travail à faire pour que ces œuvres soient adaptées à tous les différents publics. Ça peut être des enfants de CE2, voire maternelle, à des personnes âgées de 77 ans ou plus. Et donc, mon métier, ça va être d'essayer d'inventer des visites ou des ateliers qui vont être adaptés et expliqués au mieux selon les différents publics.
Comment vous êtes arrivée à faire ce métier ? Qu'est-ce qui vous a poussée à le faire ?
Alors, j'ai fait des études pour ça. Depuis toute petite, je savais que je voulais travailler dans l'art et la culture. Et puis un jour, en fait, il y a une jeune médiatrice qui était intervenue à mon collège qui avait expliqué son métier. Et je ne le connaissais pas du tout, ce métier-là, avant. Moi, je connaissais les guides conférenciers, les métiers un peu plus classiques dans les musées, des choses comme ça. Mais médiateur, je ne connaissais pas. Tout cet aspect où il fallait être créatif, inventer des ateliers un peu plastiques, ou aussi créer plein de visites différentes, des visites sensorielles, des visites interactives, qui passent par le jeu, qui passent par les sens, enfin voilà, plein de choses différentes. Et en fait, je trouvais ce métier très diversifié dans la création, et en même temps, on était un petit peu, entre guillemets, le lien entre les différents publics et l'artiste qui souhaite montrer ses œuvres. Licence histoire de l'art, art du spectacle, un master en com, et voilà.
Pouvez-vous citer 3 qualités qui sont nécessaires pour faire votre métier ?
Faut être dans l'échange, on est vraiment dans le rapport à la personne constamment, que ça soit dans mon équipe ou auprès des publics différents ou auprès des artistes, donc ça c'est hyper important. Il faut être créatif aussi. Chaque exposition et chaque projet va toujours être très différent, même si c'est peut-être les mêmes publics, ça sera pas forcément les mêmes œuvres, les mêmes approches, les mêmes thématiques. Donc faut être créatif. Et puis aussi garder son âme d'enfant un petit peu. Faut vraiment aimer découvrir de nouvelles choses, créer de nouvelles choses, être hyper curieux. Donc garder ce petit côté un peu enfantin.
Comment choisissez-vous le public ? Par rapport aux œuvres ou d'autres critères ?
On choisit pas les publics selon les œuvres. On va faire plutôt l'inverse. C'est-à-dire que on a une œuvre, on a différents publics. Le but, c'est vraiment de parler à tous les publics. Ça, c'est notre objectif principal.
Est-ce que vous pourriez nous donner une fourchette moyenne de votre salaire ?
Tout à fait. Alors, ça dépend aussi des structures et du statut qu'on a. Moi, je suis en statut contractuel, c'est-à-dire que je n'ai pas le concours de la fonction publique. C'est un contrat qui est renouvelé tous les ans. Et moi, je suis catégorie B. Dans la fonction publique, il y a 3 catégories, il y a A, B et C. B, c'est un peu au milieu. Il y a différentes échelles et moi, je suis autour de 1009 net, à peu près.
Est-ce que l'artiste peut vous dire comment il voudrait faire la relation ou c'est vraiment juste vous ?
Alors ça, c'est assez exceptionnel à la galerie. On a un vrai travail avec eux. Comment ça fonctionne en général, c'est que par exemple, on est en plein montage d'exposition. Je vais beaucoup parler avec l'artiste, savoir ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de monter, comment il le voit, quel sujet il va aborder dans ses expositions. Essayer un peu de le connaître aussi, parce que c'est important que ça soit en lien avec ses projets. Et ensuite, j'essaie de me mettre à la place d'un visiteur lambda en disant, à la fin de cette exposition, qu'est-ce que je vais retenir ? Qu'est-ce que je veux que l'artiste exprime à travers ses œuvres ? Je vais noter plein de mots-clés, je vais noter tous les différents sujets, ce que j'ai ressenti, parce qu'il y a une petite partie aussi un peu personnelle. On n'a pas le choix dans la transmission orale. On a le contexte, les thèmes, le savoir. Puis on a aussi une petite part personnelle pour que le public ensuite soit touché par ce qu'on est en train de voir ou ressentir.
Merci d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une bonne journée.
Merci. Au revoir.
Merci à vous.
Reportage dans mon cartable.
Vous êtes bien sur Radio Cartable 89.4 et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Paraît que les miracles n'existent pas de Ben PLG.
Qu'est-ce que je fais sur la scène? Pendant que le temps s'arrête pas de courir comme le lapin du Racel, un peu traumatisé par cette vie. Par les silences et les plates pattes où on voyait trop l'assiette, papy m'a vu sur la chaîne, il m'a dit c'est un bug, la télé déconne, ça fout la flemme, y'a pas longtemps il est parti, sans prévenir personne, avec une cigarette qui brûlait comme un cierge. Je parle un peu trop fort et je veux plus qu'on la ferme jamais. Mamie s'est brisé le cœur en tombant dans les escaliers. L'orage le laisse parler, le temps nous blesse, on pourrait croire que la vie nous teste. Les coups durs c'est comme les vieux, je laisse passer. Beaucoup d'amour, pas beaucoup de degrés Celsius. Trajectoire floue comme les ballons quand la balançoire faisait le but. Faudrait que tu manges un petit truc, ma mère elle dira toujours ça. Pour toi j'aurais toujours faim et sans toi j'aurais toujours froid. Rien n'a changé, y'a des enfants dans les tôles. Je viens de là où tu t'en doutais pas, mais t'as un oncle dans les rôles. Histoire de promesses sous le préau, de poussière sous le tapis. Je suis bien élevé, mais je dirais des gros mots toute ma vie. Je suis venu comme je suis, je résiste pas. Dis-toi que je connais les mêmes crises que toi. Je laisse couler les larmes, je fais fuir le diable. Paraît que les miracles n'existent pas.
Dans mon cartable.
Pour finir en beauté, on reste au musée, mais cette fois-ci au Macval, avec l'exposition Le genre idéal.
Alors, bonjour à l'école Maurice Thorez, B. Je suis ravie d'être avec cette belle classe de CM2.
Bonjour Madame Berestre, nous sommes heureux de vous rencontrer dans le cadre du projet Lire et écrire au musée. Nous avons étudié des extraits de Rien n'est noir sur Frida Kahlo et avons pu enrichir nos connaissances sur cette artiste peintre, symbole du féminisme et son attachement au Mexique. Nous souhaitons maintenant vous interroger sur votre parcours d'écrivaine et ce qui vous a poussé à écrire sur cette artiste peintre.
Bonjour Madame Berestre. À quel âge avez-vous eu envie de devenir écrivaine? Pourquoi ce choix? Et que faisiez-vous avant de le devenir?
Eh bien, je pense à votre âge. Peut-être même avant. Alors, ça ne veut pas dire que je pensais que j'allais vraiment le faire. Mais quand j'étais petite fille, je me disais, j'aimerais écrire des livres. Voilà, c'était aussi simple que ça. J'avais envie de pouvoir raconter des histoires dans des livres. Quand j'ai commencé à savoir un petit peu écrire, hein, donc CP, CE1, j'avais tellement envie d'écrire des livres que ce que je faisais, c'est que je prenais des livres que j'avais. Je me souviens notamment une histoire avec un crocodile. Et puis, ma maman m'avait prêté une machine à écrire. Et j'avais pris le livre et j'avais recopié tout ce qu'il y avait dedans. Et à la fin, je m'étais dit, oh, j'ai écrit un livre. Parce que j'avais recopié tout le livre, mot à mot, et j'avais l'impression, du coup, moi, d'avoir écrit un livre. Et cette envie-là, elle était très forte, parce que je me souviens qu'à votre âge, pour le coup, CM1, CM2, j'aimais beaucoup avec mes petites copines de l'époque, pendant la récréation, on se mettait en rond. Alors souvent, quand il faisait froid, l'hiver, parce que comme ça, on se tenait chaud dans un coin de la cour, on se mettait en rond et je leur racontais des histoires. Et c'est déjà ça, écrire. Un peu plus âgée, quand j'étais au collège, donc là où vous serez l'année prochaine, j'ai essayé d'écrire des petites histoires avec des personnages que j'inventais. Et ce que je faisais, c'est que je les photocopiais et puis après, je les distribuais à mes copains-copines. Et donc, il me disait s'il trouvait que c'était intéressant, ennuyeux, qu'est-ce que j'aurais pu arranger. Donc, je dirais que pour répondre à ta question, j'ai toujours eu envie de faire ça. Après, avec le temps, petit à petit, cette envie s'est affinée, elle est devenue plus précise. Et quand j'étais plus grande et que je me suis rendu compte, ben, tous les livres qu'on pouvait se procurer en bibliothèque ou dans les librairies, qu'on pouvait tout écrire et que tout le monde pouvait écrire. Et on a l'impression que les écrivains, c'est un peu des gens du temps ancien. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'écrivains qui étaient jeunes, qui avaient mon âge, et qui pouvaient tout essayer et parler du monde dans lequel on était. Et donc, petit à petit, je me suis dit que j'allais essayer de faire ça. Et je me suis dit, mais j'arriverai jamais à écrire des livres et à être publiée, et à pouvoir en vivre. Et donc, pendant quelques années, j'ai été prof. J'étais prof de français. Et donc, j'étais contente de pouvoir partager ce plaisir des livres et des textes sous une autre manière. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité, c'est-à-dire la chance, la possibilité qu'un éditeur, parce que ce sont les éditeurs qui fabriquent les livres, accepte de publier mon premier livre. Quand j'ai eu la nouvelle par téléphone, je me suis mise à danser chez moi toute seule. Je ne pouvais plus m'arrêter tellement que j'étais contente qu'il y ait quelqu'un qui accepte de réaliser mon rêve. Et le premier livre est arrivé. Et puis après, petit à petit, j'en ai fait d'autres.
Comment fait-on pour devenir écrivaine ?
Il y a ce grand désir d'écrire des livres. Et on ne sait pas à qui demander des conseils pour savoir comment on devient écrivain. C'est difficile de le savoir. À l'époque, quand moi j'étais jeune étudiante, il n'y avait pas d'études pour devenir écrivain, vraiment. Ça n'existait pas. Donc moi j'ai fait des études de littérature, des études de lettres, parce que j'aimais bien lire et j'aimais bien écrire. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, il y a des études pour devenir écrivain, si on veut. Peut-être que l'un d'entre vous le fera plus tard. C'est ce qu'on appelle, si je ne dis pas de bêtises, des masters de création littéraire. Et il y en a en France, et c'est très récent. Et c'est des étudiants, ils se retrouvent entre eux et ils vont réfléchir à comment ils vont réussir à mettre tout ce qu'ils ont dans la tête sur le papier. Et ils vont essayer de faire un livre. L'écrivain, il est un peu tout seul dans sa chambre ou dans sa maison pour écrire. Et il y a des gens dont le métier, c'est de fabriquer les livres des écrivains. Donc, on appelle ça des maisons d'édition. C'est des maisons dans lesquelles il y a plein de gens qui sont des éditeurs. Et eux, ils vont aller découvrir des gens qui écrivent. Ils disent, mais ça a l'air vachement intéressant ce que tu fais. Eh bien, on peut peut-être travailler ensemble. Ce qui est difficile, c'est de rencontrer ces éditeurs. Comment on peut faire ? Une des manières, c'est qu'on leur envoie une lettre par la poste, ou on leur envoie un courriel. On peut leur envoyer un texte qu'on a écrit en disant « Est-ce que vous voulez bien me lire et me dire si vous trouvez que c'est intéressant ?» Et puis, on peut essayer d'aller dans les maisons d'édition pour les rencontrer. Et ça, c'est la partie, je vais dire, presque la plus difficile, c'est qu'ils reçoivent plein de lettres et que parfois, ils n'ont pas le temps de toutes les lire, ils n'ont pas le temps de lire tout ce qu'ils reçoivent. Et donc, c'est pas forcément facile qu'à un moment donné, un de ces éditeurs vous donne votre chance. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de maisons d'édition. Quand vous prenez un livre, sur la couverture ou au dos du livre, à l'intérieur du livre, il y a toujours marqué le nom de la maison d'édition. Je ne sais pas si vous en connaissez des maisons d'édition. École des loisirs, tout à fait, c'est une maison d'édition, absolument. Gallimard Jeunesse, absolument. Dans les livres jeunesse de connus, il y a La Martinière, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui font plein de livres jeunesse. Mais vous avez raison, les maisons d'édition, comme par exemple Gallimard, ce qui est intéressant dans une maison d'édition, c'est qu'ils ont plein de petites maisons à l'intérieur. Donc ils vont faire des livres pour les adultes, et puis ils vont faire aussi des livres pour les enfants. Et donc Gallimard, par exemple, est une maison d'édition, et puis il y a Gallimard Jeunesse dedans. Et donc ce sont ces maisons-là qui, à un moment donné, vont trouver des nouveaux auteurs, et après ils vont fabriquer leurs livres. Et c'est comme ça qu'on devient écrivain.
Quel genre d'écrit pratiquez-vous en dehors des biographies ? Combien en avez-vous publié et lesquels préférez-vous ?
J'ai écrit 8 autres livres, je crois. Je crois que j'en suis à 9 aujourd'hui, sur des sujets très variés. Et c'est ça qui est assez intéressant quand on est écrivain. Il n'y a aucune limite au sujet qu'on peut choisir. D'une certaine manière, le monde entier vous tend les bras pour aller vous intéresser à tous les sujets. Et par exemple, dans les livres que j'ai écrits, je parle de gens qui ont vraiment existé, comme Frida Kahlo, qui est une femme qui a vraiment existé au Mexique au début du XXe siècle. Il y a un autre livre où je parle d'autres peintres qui ont vraiment existé au XXe siècle, un livre qui s'appelle Gabriel, et je parle de peintres dont vous avez peut-être déjà entendu parler, comme Picasso, Marcel Duchamp. Je parle aussi de musiciens, je parle aussi de gens qui ont fait du théâtre. Donc certains de mes livres s'appuient sur la réalité, sur l'histoire, sur des personnages historiques. Et après, j'essaye, moi, de me mettre dans leur peau pour les faire vivre à nouveau. Mais j'ai aussi fait des textes où tout est inventé, où je ne me suis pas basée sur des personnages historiques, où j'ai créé des personnages, et c'est ce qu'on appelle donc des romans. Et vous connaissez aussi sans doute, vous avez lu des romans, vous étudiez des romans avec votre professeur. Et là, c'est un tout autre enjeu, qui est un jeu aussi, c'est de faire appel à son imagination pour inventer une histoire, pour inventer des péripéties, pour inventer des vies entières. Et j'ai aussi fait un autre type de livre, qui serait un troisième type, où là, c'est pas du roman, c'est pas un univers imaginé, c'est pas non plus des personnages historiques, c'est des livres qu'on appelle généralement des essais, comme si on essayait de faire quelque chose. Et là, c'est plus des livres où on réfléchit au monde dans lequel on est. On réfléchit à ce qui se passe autour de nous. Ça peut être comment la société s'organise, ça peut être des soucis, des problèmes qu'on peut observer, ça peut être des situations dans d'autres pays. Et ce sont des livres plutôt où c'est comme si on allait demander au lecteur de réfléchir avec nous sur le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est un troisième type de livre et j'en ai écrit aussi. J'ai écrit un livre, par exemple, sur l'école. Vous connaissez ce sujet-là. J'ai écrit un livre pour réfléchir à comment s'organise l'école aujourd'hui en France. Comment est le système? Est-ce qu'il y a des soucis? Et c'était un livre qui s'appelait La lutte des classes. Voilà. Et j'ai aussi écrit pour les enfants, pour les 4-5 ans. Donc, un âge où ils ne savent même pas lire eux-mêmes, mais c'est pour que les parents leur lisent le livre. Donc, c'est vraiment un album pour les petits. Et qui s'appelle Cacapo et Pipistrelle. C'était le nom de ce livre. Alors, Pipistrelle, c'est le nom d'une petite chauve-souris qu'on trouve plutôt dans le sud de la France. Et je trouvais qu'elle avait un joli petit nom, très poétique, la Pipistrelle. Et le Cacapo, c'est un très gros oiseau qui vit en Nouvelle-Zélande. Le pauvre qui est en voie d'extinction, c'est-à-dire qu'il y en a très très peu aujourd'hui. Et il a la particularité, le cacapo, donc d'être un oiseau, mais qui ne peut pas voler. Il a des grandes ailes et il n'arrive pas à voler. Et dans mon histoire, je faisais se rencontrer un gros cacapo avec une petite pipistrelle. Et tous les deux, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils vivent la nuit. Ce sont des animaux nocturnes et donc pas diurnes. Ils ne vivent que la nuit et le rêve du cacapo, c'était de rencontrer le soleil parce qu'il ne l'a jamais vu. Et il ne sait pas comment s'y prendre. Et avec la pipistrelle, ils vont essayer de trouver un moyen de pouvoir rencontrer le soleil.
Pourquoi avoir choisi Frida Kahlo pour cette biographie?
Il y a plus de 20 ans, je ne connaissais pas Frida Kahlo encore. Et j'ai eu la possibilité de partir vivre à l'étranger pendant 2 ans, aux États-Unis. Et je pars là-bas, et il se trouve qu'à cette époque-là, je parlais très 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 mal anglais. Je connaissais personne dans la ville où j'étais aux États-Unis. C'était à New York. J'avais pas d'amis là-bas, j'avais pas de famille là-bas. Je parlais donc pas bien la langue. Et je dois dire qu'au début, j'étais un peu seule. Et dans ces premières semaines, ces premiers mois où j'habitais là-bas, j'ai rencontré quelques personnes et il y a une personne qui m'a fait un cadeau. Il m'a écrit un petit mot sur une carte postale avec une peinture de Frida Kahlo. Et en fait, en voyant cette peinture, c'est comme si j'avais eu un coup de foudre. Je me suis dit, mais c'est génial, c'est extraordinaire. Et en plus, j'avais l'impression que cette peinture, ce qui était représenté, me parlait de ce que j'étais en train de vivre. Parce que cette peinture, c'est une peinture de Frida Kahlo, où Frida Kahlo, elle s'est représentée elle-même, mais deux fois. Deux Frida. Et ces deux Frida, elles se tiennent la main. Elle est en même temps gaie et elle est en même temps triste. Parce que les Frida qui sont représentées ont l'air de souffrir aussi. Et surtout, elles ont l'air d'être seules. Mais elles ne sont pas tout à fait seules parce qu'elles sont ensemble. C'est comme si Frida, elle disait, même si tu es toute seule, tu peux être ta propre amie. Tu peux, toi, être ta propre amie et tu peux y arriver. Dans les bibliothèques, je suis allée chercher les images de cette peintre. Je suis allée chercher quel tableau elle avait fait et quelle avait été sa vie. Et j'ai plongé dans sa vie. Tout me semblait passionnant et fascinant, même si elle a eu une vie avec plein de douleurs. Elle a eu un accident très, très grave quand elle était jeune, qui lui a cassé un peu tout le corps. Et donc, elle a porté ses douleurs après toute sa vie. Mais même avec ce corps tout cassé, elle a réussi à affronter toutes les épreuves. On lui a dit, tu ne remarcheras pas, ton corps est beaucoup trop cassé. Elle a réussi à remarcher, elle a réussi à voyager, elle a réussi à peindre, elle a aimé follement son mari et puis plein d'amis qu'elle a rencontrés. Et cette femme, par sa peinture et son histoire, elle me donnait énormément d'énergie. Et après, le temps a passé et elle est restée comme une amie. Donc, je suis allée voir sa peinture, je suis allée au Mexique, j'ai pu aller voir ses tableaux, en vrai, dans différents pays. Et puis, bien plus tard, un jour, je me suis dit, mais je l'aime tellement, elle est tellement importante pour moi, pourquoi est-ce que j'écris pas un livre pour dire à d'autres gens, mais regardez comme elle est intéressante. Et donc, 20 ans après, quasiment, avoir rencontrer le travail de cette peintre, un jour j'ai décidé de faire ce livre qui est Rien n'est noir et que vous avez pu regarder avec votre professeur.
Au revoir. Maintenant, sur 89.4 FM, vous retrouvez votre émission littéraire Bibliomanie.